Votre Excellence, Mesdames, Messieurs, chers amis. La dernière fois, nous avons laissé le calme troupeau de Robert Desnos immobile devant un précipice profond que j'ai imaginé être celui du Trou des Halles, comblé depuis longtemps, mais qui marquait la fin d'un chemin, ou plutôt l'endroit où le troupeau s'est trompé de chemin. Comment ne pas voir en ce troupeau de bovins celui-même mené à travers toute la Grèce, du nord au sud, par l'enfant Herbès, ainsi que le raconte l'un des plus beaux poèmes de la littérature grecque, à savoir l'hymne homérique à Hermès. D'autant plus que le dieu en question, le petit Hermès, se voit attribuer, dans cet hymne même, les epamoibia erga, les pratiques d'échange, à l'honneur depuis toujours dans le quartier des Halles, où de surcroît, une rue s'appelle rue de la Grande Truanderie, comme pour célébrer le dieu grec, prince des voleurs, Philetéon Orchamos, autrement dit Hermès. Nous avons ainsi intercepté le troupeau de 50 vaches volées par le dieu Hermès au soir de son premier jour d'existence. Né le matin, dans la grotte de la nymphe Maïa sur le mont Kylène, en Arcadie, Hermès a déjà inventé la lyre pour se rendre le soir tombant, quelle soirée envoûtante, de l'Arcadie jusqu'en Pierrée, où les vaches d'Apollon paissent sur les pentes du mont Olympe. Il en vole donc 50, qu'il ramène tout petit, tout seul, par beaucoup de montagnes ombragées et de vallées sombres et de plaines désirables, fin de la citation, vers le Péloponnèse dans la nuit merveilleuse. Il longe la mer d'Égée et contourne le lac Copaïs pour arriver à Onchestos en Béotie, d'où il traverse l'Isthme et franchit le fleuve Alphée pour mettre le troupeau à l'abri dans une étable près de Pylos. Il sacrifie deux des vaches et fait griller leur chair sur un feu qu'il allume lui-même grâce à une technique de sa propre invention. Mais il ne touche pas à la viande. On se souvient pourtant de sa grande envie d'en goûter. Bientôt, le propriétaire du troupeau, son frère Apollon, le retrouve. Le petit voleur commence par tout nier. L'affaire est portée devant Zeus. Et de nouveau, Hermès nie tout. Amusé par la précocité de son fils, le roi des dieux ordonne la réconciliation. Hermès charme son frère en jouant de la lyre, puis lui donne l'instrument, le tout, en échange des 50 vaches. En travaillant sur cet hymne, dans son rapport à la version hésiodique du même vol, reprise par Antoninus Liberalis, j'en ai conclu qu'il est la parodie de la version hésiodique, plus grave, plus ancienne, racontant, elle, l'invention par un Hermès adulte, non pas de la lyre, mais de ce qui, dans l'imaginaire grec, et son inversion logique, à savoir la pierre tombale. Au point de départ de mon travail se trouvaient deux thèses de doctorat, dont l'une était celle de Norman O'Brown, intitulée « Hermès the Thief », parue en 1947, et qui inaugurait l'œuvre étonnante de Brown avec des livres comme « Life Against Death » de 1959 et « Love's Body » de 1962. de 1966. L'autre thèse, celle de Laurence Lyotard-Kahn, intitulée « Hermès passe ou les ambiguïtés de la communication », paru en 1978. On peut noter que ces deux autorités sur Hermès se sont dirigées, recherche doctorale accomplie, vers la psychanalyse. Et j'ajoute ceci. Un jour, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 80, 1980, lorsque précisément je travaillais sur l'hypnomérique à Hermès, le poète américain John Peck, psychanalyste lui aussi, m'a étonné, voire m'a fortement impressionné, en disant qu'il venait de rencontrer le dieu Hermès en rêve. Et comme pour soutenir son affirmation, que je n'ai point mise en doute, il m'a montré le dessin au crayon vert d'une statue d'Hermès qu'il avait exécutée avec beaucoup d'adresse dans un cahier qu'il portait sur lui en se rendant au musée. Nous nous sommes mis d'accord ce jour-là pour dire que le dieu de la poésie moderne ne pouvait être autre que Hermès, pas qu'Apollinis. Les analyses de Laurence Kahn dans Hermès passe vont dans ce sens, je crois, et je pense qu'il est très surprenant que son livre ait été négligé par les poètes français de sa génération. Mais pour être franc, vers la fin des années 80, ma lecture de l'hymnomérique à Hermès a été marquée surtout par un roman anglais, à savoir Songlines de Bruce Chatwin, paru en 1987, livre qui, pour tous ses défauts, a eu l'immense mérite d'attirer l'attention du grand public sur la culture aborigène australienne. Champ d'intérêt jusque-là réservé aux ethnologues. J'aurais peut-être dû associer l'hymnomérique à Apollon au même Songlines, mais ce qui est arrivé est arrivé. L'association entre cet hymne-là et les Songlines, essentielle, dirais-je, se retrouve dans le livre de Phoebe Giannisi, cité ici la dernière fois. Les Songlines ont irrésistiblement accompagné ma lecture de l'hymne homérique à Hermès. Je pense que le mot Songlines, pour moi, évoquait une immense ligne d'écriture, un immense stichos, étant donné que j'ai travaillé sur l'écriture et la lecture pendant ces années. J'y reviendrai. Les liens entre Hermès et l'écriture existent, certes, mais ils ne sont pas aussi forts qu'on aurait pu le penser en abordant le sujet. Dans le panthéon grec, il n'y a pas, de façon, dirais-je, caractéristique, de dieu ou de déesse de l'écriture. Mais dans l'anthologie palatine, on trouve pourtant des épigrammes sur des scribes en fin de carrière, qui dédient leurs outils à Hermès, divinité de la communication. Le parcours de l'enfant Hermès à travers la Grèce, du nord au sud, semblait trouver un sens rajeuni dans sa confrontation avec les Songlines propres à la culture aborigène. La aide semblait effectivement instaurée par le chant le paysage grec dans le réel. Comme si c'était par sa seule songline que le paysage puisse, en quelque sorte, accéder à la conscience. Qu'apprend-on dans le roman de Chatwin? Aujourd'hui, il est peut-être un peu oublié. Le livre, en effet, est moins un roman qu'un récit de voyage, voire un plaidoyer pour un nomadisme postmoderne. nomadisme de luxe, sans doute, réservé à une minorité. Et pourtant, il est difficile de ne pas se laisser entraîner par l'enthousiasme de Chatwin, qui, grâce à un guide australien d'origine russe, Orchidée, travaillant au sein d'un projet gouvernemental pour établir les droits territoriaux des aborigènes, s'initie au monde des sentiers invisibles qui traversent l'Australie. Sentiers qui sont autant de champs anciens par lesquels le territoire a accédé et continue d'accéder à la réalité. En tant qu'helléniste, je ne me sentais pas dépaysé en lisant la page 130 de l'édition Picador, que je vous cite maintenant dans la traduction française de Jacques Chabert. Orcadée s'allongea, se recouvrit la tête d'une serviette de toilette et se mit à ronfler. Utilisant mon sac à dos de cuir en guise d'oreiller, je m'appuyai contre le tronc d'arbre, d'un arbre et feuilletai les Métamorphoses d'Ovide. L'épisode de la transformation de Lycaon en loup me rappela un jour venteux de printemps en Arcadie, où je vis, dans le sommet calcaire du mont Lycaon lui-même, l'image du roi loup. Je lus ensuite l'histoire de Hyacinthe et d'Adonis, celle de Deucalion et du Déluge, et comment les choses vivantes furent créées à partir des chauds limons du Nil. Et, avec ce que je savais à présent, des itinéraires chantés, des songlines, il m'apparut subitement que toute la mythologie classique pouvait représenter les vestiges d'une gigantesque carte chantée, song map, que toutes les allées et venues des dieux et des déesses, les grottes et les fontaines sacrées, les sphinx et les chimères, et toutes les femmes et tous les hommes devenus rossignols et corbeaux, écho ou narcisse, pierre ou étoile, tous pouvaient s'interpréter en termes de géographie totémique. J'ai dû m'assoupir moi aussi, car lorsque je m'éveillais, j'avais le visage recouvert de mouches. Et Orcadée m'appelait. Venez, on y va. Dans ce passage, on doit faire attention à la consonance Orcadée-Orcadia. Sans doute, le nom Orcadée a pu être celui d'un personnage réel, qu'en sais-je, mais le fait que Chatwin l'ait retenu comme nom de son guide à travers l'Australie prend vite de l'épaisseur, ne serait-ce qu'à cause de la suggestion du passage que je viens de vous lire, suggestion renforcée par la mention d'un roi mythique arcadien, Lycaon, qui y aurait été un ancêtre totémique dans le jargon de Chatwin. Arcadie, première terre habitée selon la mythologie grecque, nom dont les associations n'ont cessé de se multiplier depuis la Renaissance. Et in Arcadia ego, mort, je vous rappelle que j'ai habité l'Arcadie aussi, et non seulement l'Hadès. Cela aurait pu être l'épitaphe de Chatwin, mort à Nice en 1989. Chez Pausanias, notre guide irremplaçable en pays grec, nous lisons ceci. Accius a parlé de Pelasgos en ces termes dans ses poèmes. La terre mit au monde le divin Pelasgos sur les montagnes touffues de l'Arcadie pour que l'espèce humaine commençât à exister. Pendant son règne, il enseigna aux hommes soit l'art de se construire des cabanes pour se mettre à l'abri du froid, de la pluie et de la chaleur, soit celui de se faire des vêtements avec des peaux de sanglier, vêtements dont les gens pauvres se servent encore maintenant dans l'Eubée et la Phocide. Les hommes vivaient encore de feuilles vertes, d'herbes et de racines qui n'étaient pas toutes mangeables, et dont quelques-unes même étaient mortelles. Pélasgos les fit renoncer à cette nourriture et il découvrit que les glands, non pas ceux de toutes les espèces de chênes, mais ceux que produit le hêtre, étaient un aliment. Pélasgos est donc le héros culturel de l'Arcadie des origines. Voici maintenant la façon dont le guide de Chatwin, Arcadie, est introduit dans le livre. Ce fut durant la période où il exerça le métier d'instituteur qu'Arcadie apprit l'existence du labyrinthe de sentiers invisibles sillonnant tout le territoire australien et connu des Européens sous le nom de songlines, itinéraires chantés ou pistes des rêves, et des aborigènes sous le nom d'empreintes des ancêtres ou de chemin de la loi. Les mythes aborigènes de la création parlent d'êtres totémiques légendaires qui avaient parcouru tout le continent au temps du rêve. Et c'est en chantant le nom de tout ce qu'ils avaient croisé en chemin, oiseaux, animaux, plantes, rochers, trous d'eau, qu'ils avaient fait venir le monde à l'existence. Arcadie fut si frappé par la beauté de ce concept qu'il se mit à prendre des notes sur tout ce qu'il voyait ou entendait, non pas à des fins de publication, mais pour satisfaire sa propre curiosité. Dans un premier temps, les anciens des Wabiri se méfièrent de lui et répondirent évasivement à ses questions. Avec le temps, une fois qu'il eut gagné leur confiance, ils l'invitèrent à assister à leurs cérémonies les plus secrètes et l'encouragèrent à apprendre leur chant. Le guide à travers l'Australie arcadienne porte ainsi le nom très approprié d'Arcadie, significant name dans le jargon des homéristes britanniques. Il est l'informateur de Chatwin qui, lui, est à la recherche d'un nomadisme planétaire adapté à sa propre époque. Un véritable idéologue du nomadisme, portant lui aussi un significant name, puisque Chatwin, anciennement Chetewynd, signifierait le chemin tortueux. Idéologue du nomadisme, ou plutôt de son propre aveu, son devancier visionnaire. Et je cite. Ici, je voudrais faire part d'une vision fondée sur une conviction profonde, sans m'attendre guère, cependant, à ce qu'on me suive sur ce chemin. Je vois des itinéraires chantés s'étendant sur tous les continents à travers les siècles. Je vois les hommes laissant derrière eux un sillage de chants dont parfois nous percevons un écho. Et leur sentier nous ramène, dans le temps et dans l'espace, à une petite zone isolée de la savane africaine, où, au mépris des dangers qui l'entouraient, le premier homme a clamé la stance par laquelle s'ouvre le champ du monde. Je suis. À partir de ce passage, on pourra peut-être qualifier la perspective de Chatwin de ontonomadisme plutôt que de nomadisme tout court. Idéologue du nomadisme, Chatwin l'est certainement, mais il ne s'attend donc pas à trouver des compagnons de route prêts à le suivre jusqu'au bout. Ce qui nous laisse avec le nomadisme comme figure de la création littéraire, comme figure de l'entreprise individuelle d'un romancier voyageur, sensible aux allées et venues, the toings and froings des dieux grecs. Mais cela nous oblige, à notre tour, à nous poser la question, qu'est-ce que le nomadisme en Grèce ancienne? Ou bien, qu'est-ce qu'un nomade grec? Regardons d'abord un exemple d'une autre région du monde, la Scandinavie septentrionale. Pour Chatwin, les Lapons ou les Samis sont des nomades. Et il cite à l'appui le livre classique de Johan Turi, Muitalus Samid Bira, récit sur les Samis, paru en 1910. Nous, les Lapons, sommes de la même nature que les rennes. Au printemps, il nous tarde d'aller dans les montagnes. En hiver, nous sommes attirés par les bois. Cela est sans doute conforme avec le nomadisme tel qu'il est envisagé par Aristote dans le premier livre de la Politique. On en peut dire autant des hommes. Leurs modes d'existence ne sont pas moins divers. Les uns, dans un désœuvrement absolu, sont nomades. Sans peine et sans travail, ils se nourrissent de la chair des animaux qu'ils élèvent. Seulement, comme leurs troupeaux sont forcés, pour trouver pâture, de changer constamment de place, eux aussi sont contraints de les suivre. C'est comme un champ vivant qu'il cultive. Passage cher à François Hartog. Métaphore de la création poétique ou littéraire. Il n'est pas interdit de le penser, mais ne soyons pas trop pressés de poser pareille question. De toute façon, on y reviendra. Les Samis, quant à eux, semblent bien être des nomades. Dans un cimetière sami, j'ai en effet pu lire des épitaphes sur le modèle « Ici gît le nomade un tel » 1800 et quelques jusqu'à 1900 et quelques, avec le terme « nomade » en surbrillance, pour ainsi dire. Par exemple, nomaden, Ezekiel blind. Les Samis considèrent en fait qu'ils sont des nomades, sans demander la permission à Aristote. Ils se qualifient avec fierté de nomades, et cela bien avant l'apparition des nomades modernes appelés les gens du voyage. Or, ces nomades septentrionaux suivent leurs troupeaux, sans doute, mais ils sont également à la tête des troupeaux pendant les migrations, menant leur bétail plutôt que mené par lui à la traîne. Cela au point où, plus récemment, les troupeaux de rennes arrivent en camion des territoires boisés jusqu'à la toundra des montagnes pour y passer l'été. Cela en contraste avec ces nomades antiques qu'étaient les Scythes, dont le nomadisme pour un grec était synonyme de barbarie. Aucun grec ne se serait mis à suivre passivement son troupeau. En revanche, dans la transhumance, telle qu'elle se pratiquait et se pratique toujours en Grèce, en Italie, en Espagne ou en France, l'initiative vient du berger qui, bien sûr, connaît les besoins de ses bêtes sans les suivre passivement. La connaturalité entre Sami et Rennes, qu'exprime la citation de Juan Turi, s'explique en effet assez facilement. Pourtant, même si le terme nomade est utilisé par mes compatriotes Sami pour désigner l'éleveur de Rennes, je considère que leur migration saisonnière ne relève pas d'un quelconque nomadisme, mais de ce qu'il convient d'appeler la transhumance. Cette transhumance se déroule dans ce que les Suédois tentent à qualifier de nature sauvage, wildmark, wilderness. Ce fut pour affronter cette nature sauvage que, dans ma jeunesse, je me suis rendu en Laponie. Pour être finalement corrigé sur ce point, là où je ne voyais que de la nature sauvage, les Samis avaient de si nombreux repères, des pistes, des tombeaux, des lieux sacrés, des pierres de foyers noircis, que le paysage perdait inévitablement son côté sauvage, pour devenir plutôt habité, civilisé. Pistes, montagnes, rochers, ruisseaux, arbres s'inscrivaient dans une mémoire collective où le lieu était indissociable de la parole. De la parole poétique, ainsi que je m'en rendais compte en rencontrant la poésie Sami, les Yoik, maintenant promue à une place significative dans la world music. Le tombeau du grand-père, marqueur dans un paysage moins sauvage que civilisé, me faisait en effet penser au discours d'Hector au chant 7 de l'Iliade, lorsque le héros imagine un avenir où un marin, passant dans son bateau chargé de marchandises, voit de loin un tumulus sur la côte et s'exclame « Voici le tombeau d'un héros mort il y a longtemps, lorsque dans sa poursuite de la gloire, il fut tué par le brillant Hector. » Formule de la culture orale que les inscriptions funéraires grecques de l'époque archaïque vont bientôt reprendre, moins confiantes dans la mémoire collective qu'Homère, et désormais contraignant la voix du passant à la répétition d'un programme précis, faisant partie de ce récit du chemin que Madame Giannisi a exploré en pays grec. Un paysage pourvu d'inscriptions de ce genre montre autant de traits propres à la song map que le paysage des initiés de la tradition orale. Voici le tombeau d'un héros. L'itinéraire, jalonné de souvenirs, devient un récit. Entrons donc chez les initiés d'une tradition orale sur la frontière sud de la Thessalie par le biais d'un mythe qui raconte les mésaventures significatives d'un berger poète nommé Kerambos, pratiquant non pas le nomadisme, mais justement la transhumance, établissant un lien entre la périphérie montagneuse, enneigée, et la plaine civilisée. Le schéma se retrouve, ainsi qu'on va le voir, dans les récits sur la fondation de la poésie bucolique. Périphérie rustique, centre urbain. Selon Antoninus Liberalis, le poète Nicandre racontait le mythe que je vais vous lire au livre 1 de ses Métamorphoses. Kérambos, fils de Céros, lui-même fils de Poséidon, et d'Eidothéa, nymphe de l'Autrice, la montagne Autrice, habitait au pied de cette montagne, dans le pays des Maliens. Il avait de grands troupeaux qu'il gardait lui-même. Les nymphes lui prêtaient leur assistance, car il les divertissait en chantant sur la montagne. C'était le meilleur chanteur de son temps et il fut célèbre pour ses chants bucoliques. Vivant dans les montagnes, il inventa la syrinx des bergers, fut le premier mortel à jouer de la lyre et composa nombre de très beaux poèmes. Tous ses talents lui valurent, dit-on, l'honneur de voir un jour danser les nymphes au son de sa lyre. Pan, qui lui était favorable, lui conseilla de quitter l'Autrice et de faire paître ses troupeaux dans la plaine, car l'hiver devait être d'une âpreté incroyable. Kérambos, avec la jactance propre à la jeunesse, comme frappé de démence par les dieux, ne se décidait pas à ramener les troupeaux de l'Autrice dans la plaine et adressa aux nymphes des propos désobligeants et stupides. Prétendant qu'elles n'étaient point filles de Zeus, mais que Deino les avait enfantées de Sperchéos. Il racontait ainsi qu'un jour Poséidon, amoureux de l'une d'entre elles, nommée Diopatra, avait enraciné ses sœurs et les avait transformées en peupliers. Puis, une fois rassasié de sa passion, il les avait déliées et leur avait rendu leur forme première. Voilà le genre d'insulte que Kérambos adressa aux nymphes. Mais bientôt, le froid survint à l'improviste, les torrents gelèrent, une neige abondante tomba et les troupeaux de Kérambos disparurent, ainsi que les sentiers et les arbres. Dans leur colère d'avoir été insultés par Kérambos, les nymphes le transformèrent en un lucane, Kérambux, mangeur de bois. On le voit sur les arbres, il a les dents crochues et ne cesse de remuer les mâchoires. Il est noir et allongé, il a les ailes dures et ressemble au grand scarabée. On l'appelle bœuf lignivore et chez les Thessaliens, Kérambux. Les enfants se servent de cet insecte comme d'un jouet et lui coupent la tête pour la porter à leur cou. Celle-ci ressemble avec ses cornes à la lyre que l'on fait avec la carapace de la tortue. Ce récit mythique, je l'ai analysé ailleurs et je me limiterai pour l'instant à quelques observations. Kérambos, propriétaire de grands troupeaux, habite au pied du mont Autrice, au nord-est de la vallée de Sperchéos, célèbre pour ses bovins. C'est un poète bucolique qui, l'été, fait paître son bétail dans la montagne où sa poésie et sa musique plaisent aux nymphes du lieu. Il est le premier homme à jouer de la lyre, l'instrument inventé par Hermès. Arrive l'hiver. Normalement, à ce moment-là de l'année, le dieu Pan assure la migration des troupeaux de la montagne vers la plaine. Et avant le changement de saison, il s'adresse avec bénévolence et emphase à notre berger, qui par caprice refuse le conseil et préfère rester sur place. En outre, il se met à insulter ses compagnes d'autrefois, les nymphes. Les rivières gèlent, la neige tombe en abondance, les arbres et les sentiers disparaissent. Dans cet hiver de la non-communication, le berger récalcitrant est transformé en lucane, petit animal sauvage. Le récit raconte ainsi la raison d'être de la transhumance, sa nécessité même et en même temps l'origine de la Jean Lucane, emblématique de la poésie lyrique et qui rappelle à tous ceux qui l'ignorent que le berger, après avoir passé l'été dans les pâturages de la montagne, doit suivre les pistes de Pan et descendre des zones périphériques, sauvages, désertes, vers la plaine, voire la cité, bref, vers le monde social civilisé. C'est à coup sûr un comportement qui vaut pour le poète aussi. Bien entendu, le retrait dans la montagne est nécessaire à l'invention musicale et poétique. Pourtant, la sophie, le savoir-faire, la sophie ainsi acquise, le poète ne doit pas la garder pour lui-même. Ainsi que le dit déjà le poète Théognis au vers 769 et suivant. Mais descendant des hauteurs, il doit aller à l'encontre de son auditoire, installé précisément dans la zone civilisée au pied de la montagne, sinon carrément au centre de la cité. Autrement dit, le mythe de Kerambos installe une véritable topographie de la création poétique. Il me semble que le schéma bipolaire de cette topographie soit toujours d'actualité, bien que les poètes contemporains ne s'occupent plus, ou très rarement, de moutons et de vaches. Si le nomadisme chatwinien paraît trop limité pour pouvoir servir de figure de la création poétique, la transhumance, inscrivant la création dans un espace dynamique, bipolaire et socialement qualifié, semble plus apte à remplir la fonction de métaphore ici. Nous sommes obligés de parler de métaphore dans la mesure où ni le nomadisme de Chatwin ni la transhumance de tel poète contemporain ne relèvent d'une activité vraiment pastorale. Poète, où sont tes moutons? Essayons quand même de répondre à cette question. À première vue, absurde. En effet, il n'y a qu'à lire le 11e Olympique de Pindare pour s'assurer du fait que l'activité pastorale est susceptible de se métaphoriser précisément en chant. Le poète thébain dit qu'il fait paître, poimainein, les thèmes de sa poésie. Ce qui nous ouvre la possibilité de comprendre les troupeaux de Kerambos comme les thèmes de sa poésie, voire de ses poèmes. Du coup, la houlette du berger est susceptible de se confondre avec celle de l'Aède ou du Rhapsode. Si nous avions eu le texte du poète Nicandre, dont Antoninus Liberalis fait le résumé en prose, nous aurions probablement pu y trouver d'autres appuis à cette hypothèse. Dans l'état actuel des choses, nous en trouvons en revanche chez Virgile, poète bucolique comme Kerambos et très au fait de la métaphore pastorale. Et je le cite. Pierride, ici équivalent muse, ô muse, dit Damette dans la troisième bucolique. Nourrissez une jeunesse pour votre lecteur. Lector. Ménalque reprend la métaphore tout de suite en répondant. Polyon, lui aussi, fait des vers modernes. Nourrissez un taureau qui déjà donne de la corne et de ses sabots fait voler le sable. Même métaphore dans la première des bucoliques où Titurus rapporte les mots que lui a adressés le jeune héros Octave à Rome. Faites paître vos bœufs comme avant, mes enfants, élevez des taureaux. C'est déjà l'empereur qui demande des poèmes épiques à ses poètes, jusque-là tournés vers la poésie pastorale. Kerambos perd donc ses troupeaux, identiques, si mon interprétation est juste, à ses propres poèmes. Selon les mots d'Antoninus Liberalis, mais bientôt le froid survint à l'improviste, les torrents gelèrent, une neige abondante tomba et les troupeaux poemia de Kerambos disparurent, ainsi que les sentiers et les arbres. Les troupeaux de Kerambos, appelés d'abord probata, ensuite poemia, sont vraisemblablement des troupeaux de moutons, bien que le terme probata puisse désigner des bovins. Certes, la vallée de Sperkeios était célèbre pour ses bovins, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer. Nous l'apprenons dans un fragment d'Eschyle. Ô fleuve Sperkeios, et tes pâtures de bœufs. Mais le fait que les troupeaux de Kerambos semblent consister en ovins n'est pas moins suggestif ici, car sur le versant nord de l'Autrice, le berger Aristée, fils d'Apollon, et qui portait également le nom Nomios, faisait paître, à en croire Apollonios de Rhodes, les moutons des muses elles-mêmes. Or, dans la neige disparaissent non seulement les moutons du berger, mais encore les sentiers à trapeuil, nous dit Antoninus Liberalis. D'une certaine façon, cette indication est une confirmation de la lecture métaphorique que je viens de proposer. Car ce n'est pas seulement le bétail qui peut se métaphoriser en poésie. En Grèce ancienne, le chemin, nous le savons, constitue l'une des métaphores les plus puissantes du poème. Pour prendre un exemple, dans le septième péan de Pindare, le poème est considéré comme un chemin, comme une hodos. Si tel est le cas, la disparition des sentiers ne dit autre chose que la disparition des troupeaux. L'une vaut l'autre. Ce dont il est question dans ce récit consacré au premier joueur de lyre est donc la poésie. Ayant refusé la transhumance normale, elle aussi susceptible de se métaphoriser, Kerambos perd la parole poétique. Que pourrait bien signifier ou figurer la transhumance? Au premier degré, je l'ai déjà dit, la transhumance est la migration saisonnière des troupeaux qui, pendant l'été, profitent des pâturages de la montagne et qui, l'hiver venu, descendent dans les vallées sur la plaine, plus peuplées, plus civilisées. Kérambos lui-même habite au pied de la montagne. C'est là que se trouvent les abris de ses troupeaux. Refuser la transhumance à la fin de l'été, c'est donc refuser le passage d'un espace sauvage en marge à un espace plus hospitalier, à une existence plus socialisée. Pan est certes le dieu des espaces ouverts, des hauteurs enneigées même. Bref, des escatiai ou zones périphériques. Il est étranger à la vie de la cité. Mais il reste le garant farouche de la transhumance, pour reprendre l'expression de Philippe Bourgeau. En obligeant le berger à descendre de la montagne, il empêche l'activité pastorale de se transformer en nomadisme. Au figuré, refuser de descendre des hauteurs enneigées signifie, me semble-t-il, refuser l'intégration de sa propre poésie dans le cadre social qui doit être le sien, c'est-à-dire refuser la diffusion, la récitation ou la publication de ce que le poète a su élaborer dans sa retraite montagneuse. Les torrents gèlent, la communication est interrompue. Le poète se transforme en animal sauvage. Kérambos préfigure Rimbaud. Prenons un peu de recul et regardons du côté de la poésie bucolique, qui, dans la figure de Kérambos, a un représentant précoce. Regardons plus précisément du côté des récits sur l'origine des concours bucoliques, analysés par Françoise Frontissi dans un article remarquable, Artemis bucolique, insistant, autant que mon analyse de la transhumance de Kérambos, sur la bipolarité périphérie-centre-urbain. Dans l'un de ces récits, ancré dans le Péloponnèse, à Cariae, les noyés, en Arcadie, nous apprenons ceci. Pendant que la guerre de Péloponnèse faisait rage, les Cariatides, jeunes filles chargées du culte musical d'Artémis, devaient se cacher et ne pouvaient donc pas assurer le déroulement normal de la fête d'Artémis. On fait appel aux poètes campagnards de la périphérie et ils apportent leur chant rustique en suscitant un tel enthousiasme que les citoyens de la petite cité arcadienne décident de garder la coutume, institutionnalisant ainsi, sous le signe du renouveau, l'échange entre la périphérie rurale et le centre urbain en intégrant, Artémis aidant, les ruraux dans la cité, sans pour autant les assimiler, c'est-à-dire sans les obliger à renoncer, par exemple, à leur patois dorien et à leur style vestimentaire. Tels quels, ils feront partie intégrante de la cité. Artémis est la déesse de cette intégration sociale. Autrement dit, une divinité avec une leçon pour le monde contemporain, où la métropole reste assoiffée de poésie venue d'ailleurs, de la périphérie. Du côté grec, on a ainsi pu voir pourquoi le nomadisme ne pourra devenir la figure de la création littéraire. Bien qu'Apollon, dans l'hymne homérique à Apollon, soit un superbe marcheur, frayant un chemin inédit lorsqu'il cherche l'endroit approprié pour l'installation de son oracle. Cartographiant, du coup, une bonne partie de la Grèce. Apollon porte, certes, l'épithète nomios, mais il n'est pas pour autant un nomade. C'est pourtant ce que j'affirme dans un poème que je voudrais vous lire en conclusion de cette deuxième séance. Ce n'est pas un lapsus de ma part, car en écrivant ce poème, je ne l'ignorais nullement. Bien au contraire, le but du poème était en quelque sorte de rendre ce dieu grec aussi barbare que le paysage où je l'ai placé, à savoir la Laponie. En choisissant de vous lire ce poème, je voudrais surtout faire amende honorable pour avoir mis Hermès au premier plan en suggérant que celui-ci, et non pas le maître de Delphes, serait le dieu de la poésie moderne. Apollon Samien. Afin de calculer la hauteur absolue d'Apollon, nous utilisâmes une version modifiée du théorème de Pythagore. Bientôt, nous comprîmes qu'il ne serait jamais possible de trouver assez de bleu pour représenter le dieu là où il se tenait, habillé en lapon, à côté de Amalfiélet. Des faucons tournoyaient haut dans le ciel, des lagopèdes s'envolaient. Les escarpements de 500 mètres de haut n'atteignaient même pas ses chaussures pointues, pour lesquelles toute l'herbe de la Laponie servait de bourrage. Son immense coutelas pendait d'aplomb à gauche de sa ceinture, l'étui de cornes de renne, parsemé de cygnes, était aussi long que les deux lacs de Chultresket réunis. Lorsque le dieu fit voir la lame bleue du coutelas, on aurait dit qu'une constellation brillait là-haut. Et il nous coupa un morceau de cœur de renne et nous sentîmes combien il se réjouissait de l'aurore boréale. Le dieu chasseur de loups, Apollon Lucaios, qui est aussi le nomios des troupeaux, le nomade. Mais peu après l'équinoxe, ses pensées s'éclaircirent. Il fit déborder la montagne de lumière. De véritables arcs-en-ciel étaient désormais brodés sur son habit. Et l'écho de ses yoïks s'entendait partout. Alors la feuille du bouleau s'ouvrit. Alors la terre prit des couleurs et sourit. Alors l'herbe se couvrit de fleurs et l'hirondelle trissante retourna au pays des Samées. Il est vrai que nous ne devînmes jamais vraiment familiers. Pour cela, il était trop immense, debout avec sa coiffe brodée des bois étincelants de la constellation de l'Élan. Mais la certitude qu'il se trouvait là-haut prit chez nous la forme d'un sourire intérieur qui durait des jours, des mois, des années. Puisque je vois que je dispose de quelques minutes encore, je voudrais lire un deuxième poème consacré au même dieu marcheur, ceci aussi pour confirmer l'honorable amende dont il était question tout à l'heure, au cas où la lecture du poème Apollon samien ne lui a pas suffi. C'est un poème dédié à ma fille Anna, qui, lorsqu'elle était au lycée, trouvait parfois la langue grecque difficile à apprendre. Ainsi, le poème pourrait peut-être servir à l'Association pour promouvoir l'étude du grec ancien. J'ajoute ceci. Je ne l'aurais pas choisi si je ne le considérais pas comme théologiquement correct. Vous allez vous rendre compte à quel point je crois. Et le poème s'intitule « Temps primitif du verbe grec ». Il arrive que tu trouves les verbes grecs difficiles à apprendre, la prolifération de formes confondantes, les temps primitifs des verbes les plus ordinaires moins fiables que les sables mouvants. Qu'est-ce que cette langue impossible qui a un verbe signifiant « je viens » a créé les temps primitif de Blosko. Ne sachant quoi répondre, je réfléchis pendant un moment. Ensuite, je prononce ces quatre temps primitifs. Blosko, Molumai, Emolon, Membloka. Ce qui, en traduction, donnerait à peu près « je viens, je viendrai, je vins, je suis venu ». Presque un rythme de marche à quatre temps. Et soudain, on croirait entendre résonner les pas géants d'Apollon descendant la colline. Son carquois cliquetant de flèches, sa lyre grondant, les sept cordes bourdonnant de voyelles sombres et terreuses. Le sol tremble sous son poids. Et j'ai envie de te crier, quelle langue qui se donne un tel son fracassant pour dire « venir » ou tout simplement « aller ». Voici Apollon sur la route, dans le soleil matinal. La Grèce s'étend sous ses yeux, tonitruant ses pas lorsqu'il descend la pente escarpée. Les rochers roulent, fracassante et la forêt, le gravier racle ses semelles de ses sandales, comme s'il voulait nous montrer la joie de marcher sur terre, de sentir le talon contre le rocher, les orteils dans le mou terreau, d'enfoncer toute la plante du pied, à en faire vibrer les colonnes de son temple, telle une pierre fondatrice au plus profond de la terre. Je vous remercie. Je suis disponible à d'éventuelles questions.
C'est pas une question. Tu connais ce livre, Yann, une de nos collègues qui a travaillé sur Pindare, qui s'appelle Du chemin. Peut-être la
Merci. Merci. Oui, oui. Là, je me rappelle. Oui.
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 Travaillait aussi ce texte-là, travaillait cet ouvrage. Et puis, alors, sinon, je me disais, par rapport à ce que vous avez apporté, où on voit le nomade, enfin, le transhumant, descendre, ou refuser de descendre, je me disais que dans la tradition, parce que j'avais remarqué jusqu'ici, c'était le mouvement inverse, c'est-à-dire l'histoire d'Archiloque, qui va il va chercher une vache dans le lieu du pâturage, en quelque sorte, et qui, là, rencontre les muses et rencontre en même temps la, et trouve la première lyre.
J'y viendrai dans 2 semaines. Je prendrai le même chemin. Oui, oui, oui. Archiloc, c'est pas la transhumance. Il va chercher pour la vendre, pour la vendre. Oui, oui. Non, mais c'est bien sûr. Mais il est d'une certaine manière bucolique, évidemment. C'est sûr.
Seulement est une activité décédentaire. Alors, je repense par exemple à certains chants chantés par les bergers, ce qui est rare, par les transhumances, et seulement dans ces occasions-là, et surtout les chants des charretiers, bon, qui assuraient en Sicile, jusqu'à une époque récente, tout le commerce qui ne se faisait pas par la mer, mais par voie de terre, où les charretiers chantaient les uns après les autres en se donnant le chant après avoir terminé sa chanson. Et c'était vraiment une activité de chant en marchant sur des pistes, les seules pistes qui existaient pour le trafic commercial, pour le commerce. Et bon, je m'arrête là, mais c'est vrai que c'est un paradigme très positif pour commencer les formes de récits chantés, non seulement les poèmes chantés, mais les récits chantés. Parce que, bon, on a en Sicile une tradition importante de récits avec un bateau, une épée à la main, qu'on retrouve ailleurs, sur laquelle on pourrait questionner, mais l'opposition à un récit décédentaire, à un chant décédentaire, à un chant de ceux qui sont obligés par leur activité de bouger dans l'espace, c'est très intéressant.
Je te remercie beaucoup pour ces remarques. Merci beaucoup. Avec sa propre syntaxe.
Absolument.
Et donc là, on a... Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, dommage. S'il n'y a pas de questions, la séance est close. Merci. Thank you.